Appel sur l'actualité est à Nouakchott. Juan Gomez.
Alors que la menace djihadiste n'a cessé de progresser au Sahel, la Mauritanie n'a pas connu d'attaque terroriste depuis 11 ans. Comment expliquer cette exception régionale? Les États voisins doivent-ils s'inspirer du modèle mauritanien? On en parle ce matin, ici même à Nouakchott, en comparant la stratégie mauritanienne et les moyens mis en place dans les différents pays de la sous-région. Toujours avec mes invités, Boukhari Mohamed Mouemel, colonel à la retraite de l'armée mauritanienne, chercheur aujourd'hui sur les questions de sécurité et de stratégie au Sahel, Dahan Ahmed Mahmoud, ancien ministre des Affaires islamiques, mais aussi des Affaires étrangères. Vous êtes aujourd'hui le directeur exécutif de l'Institut mauritanien des études stratégiques, et Mohamed Abdelahi Taleb Abeidi, notamment ancien directeur général adjoint de la Sûreté nationale. Vous dirigez aujourd'hui le Centre mauritanien d'études et de recherche sécuritaire et stratégique. Messieurs, juste avant le journal, Aminetou de Nouakchott s'interrogeait sur cette décision prise par les autorités maliennes de se retirer de tous les organes et des instances du G5 Sahel, y compris de la force conjointe. Quel avenir pour le G5 Sahel sans le Mali, Boukhari Mohamed Mouemel?
Moi, je crois que la question se pose, et pas seulement depuis hier ou avant-hier, quand le Mali a annoncé son retrait. Elle se pose depuis plusieurs mois, voire un peu plus d'une année. Et moi, je crois que ce qui pèse le plus lourdement aujourd'hui sur la lutte antiterroriste au Sahel, ce n'est pas tant le retrait du Mali, c'est plutôt la guerre de l'Ukraine. Mm-hmm. Parce que la guerre de l'Ukraine a orienté l'effort international qui était dirigé au Sahel pour la lutte contre le terrorisme et maintenant dirigé vers la guerre de l'Ukraine. C'est ça pour moi un peu la grande difficulté.
Oui.
Effectivement, la centralité du Mali est évidente, puisqu'il est frontalier à 7 pays, c'est les 7, il y a 6 qui ont connu ou connaissent encore une guerre armée contre le terrorisme.
Oui. Et la capacité opérationnelle du G5 Sahel est clairement mise à mal. On est obligé d'avoir le Mali dans la lutte contre le terrorisme aujourd'hui au Sahel.
Moi, je pense que la présence du Mali, sa centralité dans le dispositif de la lutte contre le terrorisme est telle qu'on ne peut pas s'en dispenser. Mais comme j'ai dit, la grosse difficulté, ce n'est plus ce qui se passe au Sahel, c'est l'orientation de l'effort international vers la guerre d'Ukraine.
Ouais. On va donc repasser au standard avec d'autres auditeurs, d'autres réactions. Tierno, soyez le bienvenu, bonjour.
Bonjour Juan.
À Ouagadougou, dans la capitale du Burkina Faso, vous disiez que dans votre pays, on a trop longtemps privilégié l'option militaire pour lutter contre les djihadistes.
Oui, c'est l'option militaire qui a été privilégiée depuis 2015, année à laquelle nous faisons face à ce problème. Et l'option militaire, c'est vrai, nos forces de défense et de sécurité fournissent des efforts sur le terrain, mais le constat est que depuis 7 ans, la guerre, elle est là, elle dure, on n'arrive pas à la finir, donc on peut aussi se poser des questions sur cette option pour le tout militaire.
Ouais. Et d'ailleurs, votre pays se la pose et il a décidé de changer un peu de stratégie puisque la junte a donné son feu vert à des pourparlers avec les groupes armés.
Oui, c'est plutôt, comme on le dit, un dialogue pour permettre à des Burkinabés. Vous savez que ce terrorisme aujourd'hui que nous avons est presque, c'est un terrorisme endogène. Ce sont nos propres frères qui ont pris des armes, peut-être qui se sont un peu radicalisés. Et le concept, bien sûr, prôné par le gouvernement, c'est simplement que ces jeunes essayent de discuter avec des communautés locales pour dire à ces leaders locaux qu'ils se sont enrôlés dans les groupes terroristes, mais ils ont envie de déposer les armes pour réintégrer la société. Et une fois que ces discussions seront menées, je pense bien qu'il faudra d'abord déradicaliser tous ces jeunes et ensuite les réinsérer dans la société. Et là, c'est à ce niveau que le gouvernement doit jouer un rôle, parce que c'est le gouvernement qui pourra les aider à trouver de l'emploi et surtout les sécuriser. Parce que s'ils quittent ces groupes terroristes, c'est sûr qu'ils ne seront pas en sécurité. Donc, il faudra travailler à assurer leur sécurité.
Alors, Tierno, permettez-moi de faire réagir mes invités autour de la table, puisqu'il se trouve que la Mauritanie a, elle, également privilégier le dialogue. Dahan Ahmed Mahmoud, racontez-nous comment l'État mauritanien s'est approché des djihadistes et a dialogué avec eux.
Je vous remercie. D'abord, moi, je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous, dans nos pays, c'est des populations qui sont pluriethnique, plurireligieuse, plurilinguistique. Et donc, quand on utilise le système démocratique normal, les minorités se sentent toujours plus ou moins un peu délaissées. Il y a une façon très simple d'essayer qu'il y avait dans nos pays qui était l'arbre à palabre, qu'il faudrait essayer d'une façon continue d'avoir des contacts du haut niveau jusqu'au plus bas niveau. Et des contacts juste pour que les partis les plus minoritaires ne se sentent pas lésés et donc leurs jeunes ou les gens qui sont prennent des armes pour rentrer dans des... Nous, notre approche, c'est celle-là. Et j'avoue que notre président actuel, depuis qu'il est là, il essaye que personne ne se sente laissé en marge.
Oui. Mais concrètement, comment s'est déroulé ce dialogue? J'ai cru comprendre qu'on a demandé à des dignitaires religieux d'aller dialoguer, discuter, essayer de convaincre les djihadistes qui étaient en prison demander pardon, de se repentir.
Non, ça, une fois qu'on a l'idée globale qui est celle-là, la partie qui est déjà la pomme qui est déjà pourrie, celle-là, on essaye de la récupérer. Mais il faut surtout, il faut anticiper, parce que celui qui va prendre le soin d'aller sauter ou faire sauter quelqu'un, avant qu'il ne fasse quelque chose, ce n'est pas un criminel, la police ne le connaît pas, il n'a pas de problème. Donc nous, on a cette approche d'abord d'essayer de prêcher dans le vide, de prêcher large, d'essayer de toujours amadouer tout le monde et d'ouvrir, par exemple, du point de vue, nous pensons qu'il n'y a pas de problème avec notre religion, avec l'islam, quelles que soient ses variantes. Et donc nous ouvrons, par exemple, une radio, une télévision, on laisse les gens parler. Et parce que tous les savants musulmans, qu'ils soient salafistes, qu'ils soient soufistes, qu'ils soient malékites, aucun d'entre eux ne prêche pour tuer son prochain. C'est le contraire. Donc, quand on leur ouvre la porte, ça permet de couper l'herbe sous les pieds sur ceux qui vont devenir terroristes. Et ceux qui sont déjà terroristes, on peut parler avec eux puisqu'on les a sous la main.
Vous les avez eus sous la main et un certain nombre a même été libérés.
Ils ont été, parce qu'ils sont tous revenus sur leur...
Je vous lis quelques réactions d'auditeurs de Mauritanie. Il y a Chekou qui nous a écrit de Ouagadougou sur WhatsApp. Apparemment, nous dit-il, l'ancien président Aziz a signé un pacte avec les groupes terroristes pour qu'ils n'attaquent pas notre pays. Amadou à Nouakchott rappelle que l'ex-président Abdelaziz a su bâtir une armée solide et bien équipée, mais il se dit qu'il aurait noué un pacte secret avec certains terroristes. Y a-t-il eu, messieurs, un accord tacite entre la Mauritanie et les djihadistes? Qui souhaite répondre? Bouhari et Mohamed Mouamel.
Moi, je réponds tout de suite. Je prends le risque d'être affirmatif pour dire non, il n'y a pas d'accord, tout simplement.
Oui.
Et j'avance quelques arguments. Cet accord, on ne l'a jamais trouvé. Personne ne l'a jamais vu. L'ambassadeur des États-Unis en Mauritanie, il dit qu'il ne l'a pas vu, qu'il n'en a pas pris connaissance. Alors, cet accord, pour moi, il n'existe tout simplement pas.
Ouais. Pourtant, il se dit que des documents ont été retrouvés au moment l'interpellation.
J'en viens.
Oui.
On dit qu'il y a un document qui a été retrouvé dans les archives de Ben Laden.
D'Oussama Ben Laden, au Pakistan.
Pakistan. Ce document n'a jamais été publié. L'ambassadeur des États-Unis, ici, il dit qu'il ne l'a jamais vu. Une autre interprétation dit que ce document était en projet chez Ben Laden et qu'il n'a pas avancé, qu'il est resté au stade de projet, au cas où il existait.
Alors, il se dit que des documents justement déclassifiés par les États-Unis affirment que la Mauritanie aurait versé des millions d'euros à Al-Qaïda au Maghreb islamique pour éviter les enlèvements et les attaques terroristes. Oui, Dahan Ahmed Mahmoud.
Quand quelque chose est dit, il faudrait réfléchir pour savoir si c'est vraisemblable ou pas. Les terroristes qui sont dans le Sahel, c'est une myriade de groupes. À imaginer que vous avez un accord avec l'un de ces groupes-là, vous savez, tous les autres vont vous attaquer pour obtenir la même chose, pour vous faire... On dit, ça y est, celui-là, il paye, etc. Donc, il n'y a pas de... C'est vraiment une chose qui n'a rien à... Qui n'est pas vraie.
Donc, ce n'est pas crédible pour vous.
Et que ce n'est pas vraisemblable.
Mohamed Abdelhaït Taleb Abeidi, justement, sur cet accord tacite qui aurait été signé entre la Mauritanie et les djihadistes, ça vous fait sourire?
Oui, moi, je pense qu'il y a un principe qu'on appelle en arabe le mutaraka. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Vous ne nous attaquez pas, vous ne touchez pas à nos intérêts. C'est ce qui est dans le document de Ben Laden, que peut-être il a dû rédiger. Mais nulle part, la Mauritanie n'a fait d'accord avec les terroristes. Cependant, la Mauritanie a sécurisé son territoire et aussi les attaques qui ont été perpétrées en territoire mauritanien et les attaques que la Mauritanie, préventives que la Mauritanie a opérées en territoire malien ont coûté très cher à Acmi. Mmh. Surtout que n'oubliez pas que le nord du Mali, c'est dans une certaine mesure l'est de la Mauritanie. Et donc, la complémentarité humaine fait qu'on est un territoire qu'on connaît très bien, dans lequel on peut opérer et d'où on obtient beaucoup d'informations très utiles pour la lutte contre le terrorisme.
Florentin est avec nous à Cotonou, au Bénin. Bonjour Florentin.
Bonjour Johan.
Au Bénin, où depuis 6 mois maintenant, plusieurs attaques ont touché des localités du Nord. Et vous disiez au Standard, la menace est désormais bien réelle dans votre pays.
Oui, bon, la menace est réelle puisque nous avons eu pas moins de 3 attaques qui ont été repoussées par notre armée. Et depuis un moment, le gouvernement est en train de tout mettre en place au niveau du matériel comme le recrutement de ressources humaines pour pouvoir faire face à cette attaque.
Donc vous êtes confiant, vous êtes rassuré par le dispositif mis en place par les autorités ?
Oui, puisque jusqu'à présent, il n'y a pas eu de territoire occupé. Donc, la dernière attaque qui a eu à Porda, l'armée a eu à repousser ces terroristes-là.
Oui, effectivement. Et Florentin, vous aviez, je crois, une question à poser à nos invités.
Bon, moi, j'ai 2 questions.
Alors, allez-y, posez la première, parce qu'il y a beaucoup de monde.
La première question, nous savons tous que la Mauritanie est un pays islamique. Et le Bénin n'est pas un pays islamique, le Bénin est un pays laïque où vivent plusieurs religions dans la paix et dans la fraternité. Alors, la question que je me pose, est-ce que la stratégie qui est mise en place par la Mauritanie pourra-t-elle fonctionner au Bénin ?
Ah, est-ce que le fait que la Mauritanie soit, si j'ai bien compris, une république islamique a favorisé la lutte contre les terroristes ou pas forcément ? Qui veut répondre à cette question ? Oui, Dan Ahmed Mahmoud ?
Moi, je pense que les pays du G5 Sahel et le Bénin en partie, cette zone-là qui est dans le Sahel, comme j'ai dit, elle est multiculturelle. Il ne s'agit pas de s'attaquer à une religion, de dire si on pense que c'est l'islam le mal, c'est mal fichu, vous aurez le terrorisme. Parce que les musulmans n'accepteront pas. Et s'ils font leur comme état laïque, laissant les religions se développer les unes des autres et sans prendre des... Nous avons... Effectivement, le pays ici, c'est 100% musulman, mais... Nous ne luttons pas contre l'islam, nous ne luttons pas contre les salafistes, nous luttons contre les extrémistes violents.
Ouais, mais est-ce que je pense avoir compris dans la question de Florentin le fait que la Mauritanie soit une république islamique, c'est d'ailleurs le seul pays du Sahel à ne pas avoir une constitution laïque. Est-ce que ça a été un atout pour vous ?
Ah, vous savez, ce problème de laïcité, la spécificité française, nous ne l'avons pas tellement prise, hein, oui, séculaire. Nous avons effectivement, il y a ici les gens, les chrétiens qui pratiquent leur religion, mais nous n'avons pas cette spécificité très...
Ouais. Boukhari, Mohamed, rapidement, et on repasse au Standard.
Moi, je pense que effectivement, c'est l'aspect religieux, l'éducation religieuse, et vous avez parlé du dialogue. Dans le dialogue, il y avait une thématique qui s'appelle le discours alternatif. Qu'est-ce qu'on propose à la place du discours des soi-disant islamistes ou salafistes ? Nous avons notre discours de l'islam modéré. Et ce discours de l'islam modéré, l'État a fait un grand effort pour le publier, pour le diffuser.
Et pour véhiculer cet islam modéré, vous avez fait appel à des imams ?
On a fait appel à des imams. Oui. Il y a des efforts, justement, d'ailleurs, d'équiper les gens en matière religieuse, par le Coran.
Alors, justement, il y a Casimir qui souhaite nous interpeller sur ce point très précis. Bonjour, Casimir.
Oui, bonjour, Juan.
Nous vous écoutons. Je crois que vous avez une question à poser à nos invités.
Oui, j'aurais appris que, voilà, au niveau de la Mauritanie, on a réuni les responsables religieux pour leur demander de sensibiliser pour qu'il y ait moins de radicalisation. Et je pense que ça a dû porter ses fruits. Qu'est-ce que la Mauritanie pourrait conseiller aux autres par rapport à ce discours modéré pour qu'il y ait moins de radicalisation ?
Des imams ont été formés ici, justement. Racontez-nous ce qui a été fait, ce qui a été mis en place, Dahan Ahmed Mahmoud.
Comme j'ai dit tout à l'heure, nous pensons que l'islam, il est naturellement modéré. Je pense que l'une des erreurs graves qu'il y a, c'est quand on dit telle école est mauvaise, l'école salafiste ou l'école soufiste ou l'école. Nous, on n'a pas ça. Nous avons, une fois qu'une personne a le savoir complet de l'islam, elle peut être imam et elle est naturellement modérée contre. Et ce qui fait que le dernier dialogue qui a eu lieu il y a moins d'une semaine, il y avait toutes les tendances. Toutes les écoles qui parlaient avec les prisonniers extrémistes.
Ce qu'on voudrait comprendre, et c'est ce que j'ai cru comprendre dans la question de Casimir, comment est-on sûr que les imams qui sont formés, au final, sont des imams modérés? C'est ce processus-là qui est intéressant.
C'est là où j'essaye de vous expliquer que quand quelqu'un est formé, qu'on dit « ça y est, celui-là est un halim », il est naturellement modéré par le fait que l'islam, c'est la paix pour les autres.
Donc, vous avez mis en place des écoles.
Exactement. Voilà. En formant. Quand j'ai dit il y a la radio, il y a la télévision, quand quelqu'un parle à la radio, il dit quelque chose, l'autre peut lui dire non, ça, où est ta preuve dans l'islam? Et c'est là où nous avons cette formation continue des imams et des ulama.
Alors, on va repasser au standard, le temps passe vite. On va prendre un dernier, voire deux derniers auditeurs. Elimine, bonjour.
Bonjour.
Bonjour Elimine, vous êtes à Nouakchott. Nous vous écoutons, je crois que vous avez une question à poser.
Oui, j'ai une question par rapport... dans une partie de l'Afrique francophone, on assiste à une montée de sentiments anti-français.
Oui.
Des mouvements citoyens font de l'opposition à la France d'un cheval de bataille. Ma première question, dans quelle mesure ce sentiment anti-français affectera dans la durée la lutte contre le terrorisme au Sahel? Et que la France constitue un acteur incontournable dans le dispositif international de lutte contre le terrorisme au Sahel.
Que pensez-vous, messieurs? Dans quelle mesure ce sentiment anti-français qui grandit à travers le Sahel peut avoir un impact dans la lutte contre le terrorisme? Peut-être aucun, peut-être il sera important.
Il y aura certainement un impact, mais moi ce que j'ai remarqué surtout, c'est que pendant la campagne électorale française, aucun mot de la part des candidats, c'est la lutte contre le terrorisme au Sahel. Ça m'inquiète. Ça m'inquiète. Est-ce que c'est lié justement à ce sentiment anti-français et au moment où la France se retire du Mali et appelle ses alliés européens justement à se retirer du Mali, ça aura certainement des répercussions sur la lutte contre le Sahel.
Un mot peut-être, Mohamed Abdelahi Taleb Abeidi.
Bon, je pense que la France ne s'est pas retirée d'Israël. La France s'est retirée et à Cuba, donc la force européenne se sont retirées du Mali.
Du Mali, mais est-ce qu'il peut y avoir un effet boule de neige? Est-ce que ce sentiment anti-français obligera d'autres...
Je pense que la lutte contre le terrorisme est d'abord locale. C'est les efforts régionaux et sur-régionaux qui sont les plus importants. Maintenant, il faudrait un appui non seulement de la France, mais de l'Europe et des grandes puissances en matière de formation, de renseignement, pour permettre à ces pays-là une certaine résilience qui leur permet d'endiguer le phénomène terroriste, qui est aussi un phénomène mondial.
Dan, Armen Mahmoud, ce sera le mot de la fin.
Bon, moi, je pense que la France ne se retire pas complètement, mais je pense qu'il est bon que l'ensemble de la lutte contre le terrorisme dans notre région soit repensé avec les derniers événements du Mali, les événements de l'élargissement du terrorisme à la zone voisine. Et je pense que ça doit être repensé et que les Français ne seront pas loin pour repenser ça avec nous et pour nous aider à continuer à lutter contre l'extrémisme violent.
Merci à tous les trois d'avoir accepté l'invitation de RFI ce matin. Demain, nous serons de nouveau à Nouakchott pour dresser un bilan des trois premières années du président Razouani. L'émission est enregistrée ce matin même au Centre culturel de la région de Nouakchott. C'est vraiment à côté du Musée national. C'est une émission en public. Je vous attends donc à partir de 10h pour dresser un état des lieux de la situation en Mauritanie. Et puis sachez qu'Emmanuel Bastide sera également sur place pour l'enregistrement de 7 milliards de voisins. Un grand merci à tous ceux qui m'ont aidé à présenter cette émission. Jessica Taïeb, Damien Oulès à la coordination avec Quentin Ferral et Adrien. Merci également à nos techniciens Michael Vern à Paris, Nicolas Benita et Arès Iradag ici même. Fouque Foller pour les réseaux sociaux. À suivre dans 10 minutes, juste après le journal Priorité Santé avec Caroline Paré. Bonne journée, prenez soin de vous.
Mastercard World Elite, la carte prestige de Banque Atlantique avec un accès à plus de 1000 salons d'aéroports Lounge Key, vous a proposé Appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.